Dans la plupart des projets de déploiement dans Azure, un sujet très important est la connectivité réseau entre les différentes parties de l'infrastructure. Avec Marius Zaharia, architecte senior cloud chez Celenza, nous allons voir comment mettre en place une architecture multivénette pour répondre justement à ce besoin. Bien, bonjour Marius.
Bonjour Pascal.
Marius, est-ce que tu peux en deux mots nous présenter Celenza?
Bien sûr, très simplement, cabinet de conseil pour les technologies Microsoft et les méthodologies agiles.
D'accord. On va s'intéresser donc aux architectures et topologies multivénètes dans Azure. Est-ce qu'on peut voir en quelques mots les scénarios fonctionnels auxquels on va s'intéresser?
Bien sûr. L'idée essentielle, c'est de s'imaginer le bon scénario, puisque le contexte peut être répété. On a des environnements, des ressources multiples qui peuvent être distribuées dans le même data center ou dans des data centers différents, dans des régions différentes. Et le but, c'est de mettre tout ça ensemble. Comme exemple concret, on a pris un cluster SQL Server, always on, en mode distribué. D'accord. Avec un master et deux réplicas. On s'est dit, on met un réplica synchrone à Dublin et un réplica asynchrone à Amsterdam pour faire vraiment un cluster de haute disponibilité dans les règles de l'art.
Donc si je comprends bien, deux vénettes à Dublin avec le master SQL et puis un premier réplica. Et puis un troisième vénette à Amsterdam.
Exactement.
On va essayer de faire en sorte que tout ça communique.
Comment on va structurer ça dans des vénettes, on verra ensuite. Mais c'est ça le besoin. Nous avons besoin de trois machines qui tournent ensemble comme un cluster.
D'accord. Donc avant de rentrer dans le cas concret, est-ce que tu peux nous exposer les types de scénarios typiques qu'on va rencontrer pour faire communiquer tous nos vénettes dans Azure et dans des contextes hybrides également?
Bien sûr. Donc avant ça, peut-être que c'est bien de passer en revue très rapidement les notions techniques qu'on va utiliser. On ne va pas les expliciter maintenant parce que c'est trop court, mais on vous invite d'aller sur le site Azure pour vous documenter directement. On va utiliser bien sûr des VNets, des Virtual Networks dans Azure, qui se basent sur des subnets derrière. Nous allons utiliser des IP publics, des cartes réseau qui sont associées à des machines virtuelles, des gateway VPN. Nous allons utiliser la notion de express route dans nos architectures. On va parler de VNet peering. Attention, c'est nouveau, c'est très intéressant. Et on va parler très en marge de Network Security Group et User Defined Route. Ce n'est pas le but essentiel d'aujourd'hui. Okay. Mais c'est ça les concepts qu'on va utiliser
principalement. Après ce catalogue des technologies réseau d'Azure,
exactement,
voyons un petit peu les grands scénarios typiques de topologie.
Exactement. Donc maintenant, si on commence à détailler, on commence par des choses relativement classiques, simples, bien connues. D'abord, on a un VNet dans Azure et on a un réseau on-prem, donc sur site, comment dire, et on essaie de les faire connecter, tout simplement. Donc actuellement, pour faire cela, on utilise d'abord une connexion type VPN, IPsec, qui traverse, effectivement c'est une connexion chiffrée, qui traverse l'Internet pour mettre effectivement en relation de réseau privé le VNet côté Azure et le VNet on-prem. Ça se fait via des gateways qui sont déployés, à la fois, donc des passerelles, à la fois dans Azure, c'est le service VPN Gateway, et un gateway spécifique au client et au site client, qui est typiquement une appliance physique. Et donc, on va les faire communiquer, on va faire des connexions entre les deux. Ça, c'est la première option qui nous passe par la tête, on va dire. Deuxième option, c'est qui est plus élaborée, plus puissante, on va dire. C'est utiliser ExpressRoute, qui est le service équivalent d'un réseau privé, effectivement, entre Azure, le data center Azure, et le site client. Donc, via ce réseau-là, équivalent, on va dire, d'un réseau MPLS, on aura une traversée très rapide et très, on va dire, d'haute performance entre le site client et Azure, le data center Azure. Pour les VNet, c'est via les gateway express route, qui sont de très haute performance.
Ensuite, on travaille avec un opérateur, on a une garantie de service.
Exactement, ça c'est très important, etc. Garantie de service, plus le passage par un canal privé exclusif. Donc ce n'est pas via Internet, mais via un canal privé qui n'est pas interceptable et tout ça. Donc, ensuite, je voulais juste vous montrer qu'on peut utiliser des configurations mixtes, à la fois ExpressRoute et VPN IPsec. Donc site to site, pour différents scénarios, par exemple du PRA qui passera sur le VPN IPsec, ainsi de suite.
D'accord.
Ça, c'est la première option. Maintenant, si on se projette dans une utilisation VNet, envers un autre VNet, donc dans Azure, on est dans une situation cloud only, mm-hmm. Donc quand même dans une topologie simple, on utilise cette notion de VPN site à site, mais entre les deux VNet. On traversera le backbone de Microsoft directement, mais le concept reste exactement le même. On utilise des gateways VPN qui vont être utilisés pour cela. Ensuite, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à la mise en place de ExpressRoute, on pourra profiter de la notion de circuit ExpressRoute pour associer aussi les VNet dans Azure. Donc ExpressRoute nous servira aussi pour ce canal-là. Ensuite, ce que j'aimerais vous montrer, c'est surtout cette nouvelle fonctionnalité qui est VNet Peering, qui se base sur la mise en juxtaposition des deux VNet qui sont dans le même data center via le backbone intra-data center qui permet de faire de la communication directe entre les machines des différents VNet, sans passer par gateway. Donc cette fois, on a la possibilité d'avoir, par exemple, une bande passante limitée uniquement de la carte réseau des machines, de pas limiter des gateways ou quoi que ce soit au niveau de l'infrastructure réseau. Donc voilà déjà des topologies simples qu'on a pu voir.
– D'accord.
– Maintenant, je te propose de parler des topologies un peu plus complexes, donc des patterns, on va des modèles de topologie.
– Quand on a plus de deux VNet, qu'est-ce qu'on peut faire ?–
Exactement, on commence à arriver dans la vraie vie. D'abord, on a cette topologie qui est hub and spoke, qui permet de dire, j'ai un VNet central qui veut communiquer avec d'autres VNet qui sont autour. Une configuration en étoile. Donc dans ce cas-là, il y a des relations donc de connectivité réseau entre chaque VNet dans l'étoile et le VNet central. Les VNet qui sont répartis autour ne communiquent pas entre eux. Donc ça, c'est la spécificité du hub and spoke. Ensuite, si on parle de Daisy Chain, par exemple, la chaîne, effectivement, le VNet de gauche pourra discuter avec le VNet de droite. En effet, les ressources qui sont les VM qui sont dans le VNet de gauche pourront discuter avec les VNet de droite via cette transitivité qui se met en place, donc configuration qui permet de faire la transitivité des paquets de trafic entre les différents VNet. Donc ça, c'est fait au milieu dans le VNet central. Enfin, on a cette option de full mesh où chaque VNet discute avec chaque VNet. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus complexe à mettre en place, mais ça permet d'avoir cette maîtrise complète de la communication, des bandes passantes et tout ce qui concerne. En sachant que l'exemple que j'ai donné là n'est pas vraiment en full mesh, j'ai délibérément supprimé la connexion entre le VNet de gauche et le VNet de droite pour montrer qu'on peut avoir un mesh incomplet, on va dire, essentiellement.
– D'accord. Donc, quel est le scénario précis qu'on va essayer de montrer tout à l'heure en démonstration dans 2 minutes ?–
Oui. donc, on essaie de se baser sur cette idée que chaque des machines qui seront assemblées dans le cluster SQL dont on a parlé, Holy Zone, appartiendront à un VNet correspondant. Donc pour faire simple, on a un VNet 1, VNet 2, VNet 3. Les machines vont s'appeler VM1, VM2, VM3. Dans notre cas simple. Ça correspond tout de même à un cas assez réel d'utilisation. Donc dans le VNet 2, on prévoit l'existence de ce master database auquel on veut coller des réplicas. Et c'est là où on commence à utiliser cette structure. Donc, on a dans le data center Dublin 2 VNet qui communiquent en peering. Et ensuite, entre data center Dublin et data center Amsterdam, on aura une communication via IPsec VPN. Donc après…
– D'accord, on voit qu'on a trois sites, on a une connectivité particulière à la topologie entre chacun, du peering, du VPN. Maintenant, c'est à quel type de standard de topologie qu'on a vu tout à l'heure, on peut rapprocher cette topologie-là ?
Oui, c'est intéressant parce que déjà la partie de transitivité qui est par ailleurs disponible simplement en mode configuration, c'est le peering qui nous aide à faire ça. On n'a pas besoin de faire du custom routes, des choses comme ça particulières. C'est juste la configuration du peering qui nous permettra de faire cette transitivité vers l'autre data center. Ça correspond assez bien, si vous vous souvenez tout à l'heure, qu'on avait cette idée de transitivité dans la topologie Daisy Chain. Néanmoins, on peut imaginer également des scénarios encore plus intéressants qui disent j'ai un autre VNet ou un autre VNet ou un autre VNet dans le même data center Dublin qui veulent profiter de la même connectivité inter-data center juste en se connectant au VNet qui a ce rôle de hub. Donc, à la fois, on peut imaginer que ça, c'est une topologie Daisy Chain et Hub and Spoke.
Boom. Voilà, on va profiter de cette passerelle et repasser par elle.
C'est un des scénarios intéressants qui permet de simplifier, par exemple, la configuration de réseau et dire ça, c'est ma configuration réseau. Tout le monde va en profiter, configuration réseau, entre les deux data centers, je veux dire.
Donc, ce qu'on veut, c'est que notre VNet 2 sache communiquer avec le 1 et le 3, donc le 1 via le peering et le 3 via le peering et le VPN.
Exactement. Donc,
est-ce que tu vas nous montrer ça concrètement ?
Bien sûr. Donc, nous sommes dans Azure et j'ai préparé effectivement un resource group qui contient toutes les ressources dont on a parlé. Pour expliquer très vite, donc là, on a les trois VM qui correspondent à ce qu'on a parlé tout à l'heure. On a les trois VNet, deux à Dublin et troisième à Amsterdam. Et on a deux gateways, 1 et 3, et on a d'autres ressources qui sont à côté, comme les cartes réseau, les NSG, les IP publics, et les comptes de stockage. Mais non, si on veut regarder en détail comment ça se passe, d'abord regardons dans le VNet 1 Dublin, qui a ici deux devices connectés, qui est la VM elle-même, deuxième gateway. En regardant rapidement l'espace d'adressage, c'est le moment de dire que ça fait partie de la bonne planification de plan d'adressage réseau. C'est très important de voir tout ça au début. Toutes les adresses doivent être exclusives, les plans d'adresses doivent être exclusifs. Donc nous sommes ici sur un plan exemple 10.0.1.0. Pour le net 1, on aura 10.0.2.0 pour le net 2, 10.0.3.0 pour le net 3.
On s'y retrouve.
Exactement. Ensuite, nous allons regarder rapidement la configuration de peering qui est mise en place entre net 1 et net 2. Dans ce cas-là, vous voyez ici une configuration de peering qui a été déjà mise en place. On va la regarder. C'est en appuyant sur ce bouton Add où on va saisir ces informations qui sont le nom, les détails sur quel réseau virtuel choisir de l'autre côté. Et on a ces configurations qu'on va les détailler rapidement déjà, puisque ça nous concerne. En étant dans le net 1, rappelons-nous que notre net 1 sert à la fois de hub et de point de transition, de gateway pour le réseau net 2. Du coup, on va mettre le checkbox Allow Gateway Transit pour permettre à son propre gateway d'être transité aussi par le flux réseau qui vient d'autres VNet qui sont à côté.
C'est là qu'on configure cette fameuse transitivité au niveau.
Exactement. Ça, c'est une moitié de la transitivité. Mais non, si on regarde pour le net 2.
Donc là, on est à Amsterdam. Non.
On est à Dublin toujours. Et c'est le VNet qui est configuré en VNet peering avec le net 1.
OK. Le MasterDB.
Voilà. Ici, on n'a que la machine virtuelle. On n'a pas de gateway. Et ici, on va regarder au niveau peering. Donc, on a une autre connexion qui est équivalente. On doit faire deux connexions dans les deux directions, on va dire, une connexion vers l'autre et dans l'autre sens. On va regarder également cette configuration qui ressemble assez bien à l'autre, sauf que ici, on n'a pas de gateway. Il ne faut pas en avoir une gateway. Mm-hmm. Et aussi, on active le checkbox Use Remote Gateways qui permet de dire ce réseau-là va pousser le trafic vers des adresses IP qu'elle ne connaît pas, vers le net VNet qui est à côté, qui a un gateway qui pourra router correctement ce trafic. Donc, typiquement, okay. si on cherche à router vers un trafic, vers une adresse 010, par exemple, ça passera vers le net 1. Si on poussera 10.0.3 quelque chose, ça passera vers le net 3.
En passant par le 1.
En passant par le 1, exactement. C'est ce checkbox qui nous permettra de faire envoyer ce trafic vers les autres réseaux. Enfin, on va tout simplement regarder le VNet 3 qui est Amsterdam. Et on va en profiter cette fois pour regarder aussi autre chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Là, il n'y a pas de peering, donc il n'y a rien. Par contre, il y a des connexions et on va regarder à cette occasion les connected devices. Et on voit qu'on a une machine virtuelle et on va regarder par contre ce gateway. On voit qu'il est à il est dans le réseau Amsterdam associé, très bien. Mais c'est ce qui nous intéresse ici, c'est cette connexion. Donc chaque gateway doit avoir une connexion activée dans un sens et dans l'autre. Cette fois, vous voyez, il y a encore cette idée de faire deux connexions dans les deux directions. D'accord. Cette fois qu'elles sont listées dans le même endroit et vous les retrouvez aussi dans l'autre gateway listé. Okay. Donc, et maintenant, si on regarde effectivement cette connexion, on voit qu'elle a aussi des informations à être configurées, tout ça, qui sont, on spécifie, peut-être que c'est la bonne occasion de montrer qu'est-ce que ça donnerait si on fait clic sur Add. Cette fois, on spécifie un nom, on spécifie que c'est un type VNet-VNet, on sélectionne le premier gateway, on sélectionne le deuxième gateway, on spécifie une clé partagée, PSK, à notre volonté. Il faut que ça soit quand même assez bien, on va dire, sécurisé comme longueur, comme complexité, mais c'est à nous de la choisir. Et ensuite, on sauvegarde tout ça. Les connexions vont s'activer, vont se mettre en connected une fois que les deux sont actives. Voilà. D'accord. Comment on peut vérifier ça maintenant?
Alors, vérifions notre fameuse connectivité depuis notre MasterDB, donc qui est le réseau numéro 2.
2, exactement.
Vers l'autre qui est Amsterdam. Donc, numéro 3.
Exactement. Donc là, nous sommes dans le VNet 2, Net 2. Pour faire simple, là, c'est l'IP public qui est exposé pour la connexion réseau, la connexion RDP. On va faire simplement un IP config, ce qui nous montre que nous sommes dans le réseau 2. Nous avons un IP de cette plage-là. En sachant que nous avons déployé en mode exemple une machine dans chaque réseau, on a pris automatiquement le premier IP disponible qui est le 4. Pour gagner un peu de temps, on va retenir directement que les machines correspondantes sont toujours les 10.0.1.4, les 10.0.3.4 dans les autres deux réseaux. Donc pour faire déjà le premier test.
Donc tu as pingé le hub.
0, exactement, 1.4. Donc il est connecté, il est bien. Vous voyez le temps de réponse est très court, ce qui fait que il y a une très bonne connectivité entre les deux.
Et inférieur à une milliseconde.
Oui, on est vraiment dans le même, à l'intérieur de la même infrastructure, ça se voit. Donc ça se passe très rapidement. Ensuite, maintenant, c'est le moment de tester vraiment la connexion distante, qui cette fois passe très loin, à quelques centaines de kilomètres de distance à Amsterdam.
Oui, de Dublin à Amsterdam, oui.
Exactement. Et on constate que là, la connexion fonctionne également. Le temps de réponse est plus élevé, entre 25 et 30 millisecondes.
Il est très raisonnable quand même. Entre 25 quand même. Et 29 millisecondes.
Il passe toujours par le backbone Microsoft entre les deux data centers.
OK, Marius, donc on a vu comment, à travers le portail, on pouvait faire ce type d'architecture. Maintenant, qu'en est-il au niveau scripting?
Oui, au niveau scripting, nous allons dans le groupe de ressources que nous l'avons créé, qui contient toutes les ressources. On va sélectionner Automation Script. Cette fonctionnalité va nous générer le template ARM associé à ce groupe de ressources. À noter que à ce stade-là, toutes les ressources ne sont pas générées automatiquement. Il reste des fonctionnalités à rajouter dans le temps. Ces ressources vont être définies un peu a posteriori par le développement à partir du schéma de template ARM qui existe pour chaque type de ressource. Donc à la fin, nous allons avoir une fonctionnalité complète automatisée via ce script. Peut-être juste regarder un peu la configuration de réseau qui correspond à tout cela. Donc voilà, nous allons récupérer tout ce script, on va l'exécuter en mode automatique avec PowerShell ou avec Command Line Interface, on va déployer pour toutes les ressources à la fois.
Merci Marius.
Merci Pascal.
Nous venons de voir avec Marius comment mettre à profit les technologies réseau d'Azure, telles que les VPN Gateway et le peering, de façon à connecter les différentes parties de votre infrastructure. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les blogs de Marius et de Selenza, ainsi que son GitHub. Merci et à bientôt.
Merci.